RMC, de quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, c'est la deuxième heure de De quoi je me mêle qui débute. Merci d'être avec nous. Avant de retrouver le Grand Prix, donc De quoi je me mêle sera légèrement écourté aux alentours des 2h moins 10. Eh bien, on poursuit notre rendez-vous dédié aux nouvelles techno. Tout à l'heure, Stéphane Schreiber nous rejoindra. Il est rédacteur en chef de Micro Hebdo. Mais dans l'immédiat, je vous propose maintenant de faire un point sur le piratage sur le web, ou plus précisément le téléchargement illégal de contenu. Un sujet sensible et complexe qui n'a pas été tenté, c'est vrai, un jour ou l'autre, vous ou moi, hein, de télécharger une chanson sur un réseau peer-to-peer, un film ou une série TV via BitTorrent. Ce serait quand même vraiment difficile de dire qu'on n'a jamais été tenté. Avec toujours ce dilemme, hein, d'un côté, une immense caverne d'Ali Baba où tout est gratuit et en abondance, et de l'autre, les offres légales et payantes qui sont de plus en plus étoffées et souvent, malgré tout, moins riches que celles des réseaux illégaux, mais qui assurent des revenus légitimes aux ayants droit. On sait aujourd'hui que le piratage est en partie responsable de la baisse importante du chiffre d'affaires des maisons de disques. Mais comment alors font les auditeurs, les éditeurs de logiciels, de vidéos et de musique pour dissuader les fraudeurs? Comment peuvent-ils aussi les repérer? Comment procèdent-ils aussi pour freiner le téléchargement sur les réseaux peer-to-peer? Quels sont les nouveaux vecteurs de diffusion aussi des contenus illégaux? Question que je vais poser à mon invité qui est un vrai spécialiste de tous ces sujets passionnants, Stéphane Michenot. Bonjour Stéphane.
Bonjour François.
Alors, vous êtes le directeur général de Copyright Agency.
Tout
c'est,
à fait.
C'est une société spécialisée dans la lutte contre le piratage de tout contenu qui est un peu partout dans le monde. Et présentez-nous un peu Copyright, parce que finalement, vous agissez dans l'ombre, hein, Stéphane.
Effectivement, et c'est préférable.
Et oui.
Donc, Copyright Agency est une entreprise française que nous avons créée en 2003 avec différents responsables de SS2I, société éditrice de création de logiciels, pardon,
oui.
Et un label de musique indépendant.
Alors, qui vous finance?
Nous nous autofinançons, étant donné qu'il est assez paradoxal de penser avoir, on va dire, une certaine rentabilité, excusez-moi du terme, dans un secteur qui est en pleine effervescence et en pleine mutation. Il est préférable, nous pensons, de pouvoir nous autofinancer pour pouvoir avoir la main sur les tarifs que nous proposons à nos clients.
Ah oui, d'accord. Donc voilà. Et après, donc, on va dire que les Sony, toutes ces boîtes-là font appel à vos services et là, vous payent.
Voilà, tout à fait. Pour remonter certaines informations.
Enfin, je dis Sony, mais Microsoft, etc.
Voilà.
Enfin, tous les grands éditeurs de logiciels, de musique, etc. Alors, donc vous êtes un petit peu partout dans le monde. Vous disiez, vous avez des agences qui sont aussi des cellules de veille, hein, de ce qui se passe dans le domaine de la piraterie. Alors votre job à vous, c'est quoi en fait?
Alors il y a plusieurs aspects, on va dire la prévention, la dissuasion et le brouillage. Pour la prévention, c'est essentiellement prévenir les téléchargeurs du caractère illégal de leurs actions. Pour la partie dissuasion, c'est cibler les caractéristiques des premiers diffuseurs, c'est-à-dire les gens qui mettent en premier en partage sur les Emule ou BitTorrent les fichiers contrefaits. Et pour la partie brouillage, nous déployons une multitude de fichiers leurres, essentiellement sur les réseaux peer-to-peer pour dissuader les téléchargeurs de récupérer des vrais fichiers contrefaits.
Alors, je reviens à votre première mission, le fait de dissuader en fait les personnes qui téléchargent en envoyant des messages, etc. Ouais. Aujourd'hui, comment on fait? Alors moi, je télécharge une chanson sur BitTorrent ou sur
Emule,
enfin tous ces logiciels de peer-to-peer qui sont très 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 populaires aujourd'hui. Il y a des millions de Français qui sont
fait.
Là-dessus. Hein.
C'est un vrai phénomène de société.
Voilà, c'est un vrai phénomène de société. Comment vous allez me repérer et me dire attention, François Sorel, je sais que tu télécharges, fais gaffe à toi.
Non, ça se passe pas tout à fait comme ça, François. Tout d'abord, nous avons notre activité de prévention, c'est-à-dire d'envoi de messages, voire de recherche et d'identification, qui est principalement basé au Canada et en Espagne, essentiellement dû au fait que les données à caractère personnel, c'est-à-dire les adresses IP que nous traitons dans cette activité, sont assujetties à des demandes d'autorisation. Et actuellement, il n'y a eu qu'une autorisation pour le CEL en mars 2005, avec le concours des outils de copyright agency.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir l'adresse IP, ce qui est un peu l'adresse physique d'une connexion Internet.
Sur le territoire national. C'est vrai que si nous souhaitons, ne serait-ce que télécharger...
La CNIL, en fait, c'est la CNIL qui veille au grain.
Et je pense que c'est tout à fait logique et juste de ne pas faire tout et n'importe quoi avec les données.
Enfin, cela dit, ce n'est pas pour autant qu'on est à l'abri si on télécharge.
Effectivement.
Donc, comment vous avertissez ces internautes si vous ne savez pas qui ils sont?
Alors, nous ne savons jamais qui peut être caché derrière... telle ou telle adresse IP, un peu comme une plaque d'immatriculation d'un,
oui,
d'un véhicule.
Bien sûr.
En fait, lorsque nous avons identifié un fichier contrefait, donc toujours à partir du Canada, nous avons automatiquement la liste des gens qui le téléchargent et qui mettent en partage ce fichier. Et c'est à destination de ces personnes que nous envoyons des messages. Ces messages ne sont pas envoyés via les FAI, puisqu'ils ne sont pas habilités en France à traiter de l'infraction, mais via les fonctionnalités de communication des logiciels peer-to-peer.
Ah bon ?
Oui, vous avez ce qu'on appelle des chats ou IRC propres à Emule, donc je cite toujours cet exemple, qui permettent aux internautes de dire, bah tiens, j'ai le dernier Shrek, tu me passes le prochain Spider-Man. Donc nous utilisons ni plus ni moins ces fonctionnalités pour envoyer de l'information.
Le but... Donc vous dites, attention, je suis, vous vous présentez pour, comme...
Copyright Agency.
Voilà.
Nous vous rappelons...
Vous expliquez ce que vous faites.
Voilà, et que l'œuvre que nous citons, en l'occurrence, je dis...
Shrek ou voilà, Spider-Man,
non, enfin, voilà. Ceux pour lesquels nous sommes mandatés de le faire, nous leur faisons un rappel de la loi et nous demandons d'une part de bien vouloir supprimer, voire de stopper ce téléchargement. Et en dernier lieu, nous laissons toujours une phrase précisant qu'aucune donnée à caractère personnel n'est conservée dans l'envoi de ce message pour nous conformer aux dispositions légales en France. Même si ce traitement est fait de l'étranger, on préfère aller dans le sens... des lois et, ouais, et essentiellement continuer à faire de la...
Mais qu'est-ce que les internautes, quand ils lisent ça, ils doivent rigoler au nez, non?
Alors,
ça doit plutôt les amuser qu'autre chose.
Non,
enfin,
mais...
alors peut-être au début, c'est comment réagissent-ils, alors, tiens? Franchement.
Premier
franchement.
Constat, alors d'année en année, nous avons ce que nous appelons des indices de disparité, de disparition, donc de plus en plus importants. C'est vrai que lorsqu'il y a 3-4 ans, nous envoyons des messages, les internautes nous retournaient des insultes, ou bien nous avions des
vous avez dû inventer,
des taux de...
a dû avoir des noms d'oiseaux un peu incroyables.
Ouais, on est en train de faire une Bible à ce sujet qu'on
ah oui.
publiera.
Qui devait être, à mon avis, interdit au moins de 18 ans.
Enfin, voilà, bon. Effectivement. Et on a eu aussi, par la suite, beaucoup de tentatives de hack sur nos infrastructures. Je pense qu'on est une des entreprises en France où on a le plus de tentatives d'intrusion sur nos infrastructures.
Ah oui, donc vous avez intérêt à faire attention.
Hein. Tout à fait, c'est pour ça.
C'est-à-dire que le but du jeu, pour le hacker, ça serait de pirater votre site là.
Effectivement.
Pour dire, ben voilà, vous voyez, ils sont bien gentils,
voilà.
Ils nous donnent des leçons, mais au moins nous on les pirate.
Voilà, et jusqu'à présent ça n'est jamais arrivé puisque.
Bon, toucher du bois parce qu'on
oui,
ne sait jamais.
On n'est pas d'abri, effectivement.
D'accord.
Donc l'objectif est de pouvoir faire de la prévention. Lorsqu'il y a 3-4 ans nous avons commencé, on avait entre 3 et 4 internautes sur 10 qui enlevaient leurs fichiers. Au moment où je vous parle, depuis un peu plus d'un an, depuis l'autorisation CNIL, on va dire, pour le syndicat des jeux vidéo, on atteint entre 5 à 6 internautes sur 10 qui stoppent leur téléchargement dans les 24 heures.
C'est-à-dire qu'ils ont peur, ils se sentent sensibilisés.
On est assez latin.
Par votre message.
On est assez latin. Excusez-moi de vous couper, François.
Ah ben non, mais...
C'est vrai que vous avez la notion de pas vu, pas pris. C'est-à-dire que vous téléchargez un titre, vous n'avez pas pris de message, tout se passe bien, vous l'enlevez pour la plupart du temps de votre share folder une fois que vous l'avez téléchargé, vous le gravez et puis vous passez au suivant. Par contre, nous avons maintenant, avec presque 5 ans de recul, constaté que tout ce qui était jeu d'éveil éducatif de type, alors je ne sais pas si je peux citer des marques,
allez-y.
De type Adibou, Lapin Malin,
ouais.
On atteint 8 à 9 sur 10 qui arrêtent de télécharger, puisqu'on sait que ce ne sont pas les enfants de 2 ou 3 ans qui téléchargent les fichiers,
non.
Mais peut-être pas leurs parents, mais des gens assez proches. Donc là, on arrive à avoir des indices de disparité assez importants, et encore plus pour des dessins animés de type Vaillant Pigeon de Combat ou des dessins animés voilà, pour enfants. Ouais.
Tout contenu qui, pour les jeunes enfants, en fait, est téléchargé soit par les parents, soit par des adultes
oui.
plus responsables.
On peut dire.
On va dire. Donc ils se rendent plus compte, en fait, du mal qu'ils sont en train de faire,
voilà.
C'est ça.
Ils sont conscients de l'acte. Hein,
ouais. Alors qu'un ado qui va télécharger, je sais pas, moi, le dernier Bruce Willis ou
Die Hard 4, effectivement, voilà. Lui, on peut lui envoyer des messages. On a des indices qui sont pas aussi importants.
D'accord. Bon, alors ça, c'est pour essayer de rentrer en contact avec ces internautes pirates. J'aime pas le mot pirate parce
moi non plus,
que
c'est un non-sens.
C'est un peu galvaudé. Et puis voilà, c'est un non-sens.
Voilà.
C'est simplement des internautes qui. Voilà, contrefacteurs. Mm-hmm. Voilà. C'est, même si c'est pas très joli, mais enfin, bon, c'est comme ça. Ça, c'est votre première mission.
Tout à fait.
Moi, j'aimerais bien savoir un peu comment ça se passe dans l'underground aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, alors vous me disiez ça en préparant cette interview, là, depuis quelques heures est tombée une copie parfaite de Spider-Man 3.
Voilà. Vous voyez, donc,
sur Internet.
On peut l'indiquer, donc on va surveiller, on vous prévient tous. Mais
donc j'imagine que chez Sony, chez Columbia, c'est la pagaille.
C'est terrible, puisque le DVD va sortir qu'en fin d'année, donc c'est un manque à gagner qui sera faramineux encore pour eux.
Mais ce DVD, il vient d'où ? C'est ça. Le problème, c'est qu'il faut bien qu'il y ait au départ une qualité enfin, un film de bonne qualité qui circule.
Alors il y a ce que nous appelons les formats DVD R5, qui sont pour la plupart déployés ou envoyés à partir de la Russie, donc avec cinq langues, anglais, allemand, français, espagnol, etc. Et c'est à partir du moment où c'est...
Mais pourquoi sont-ils envoyés en Russie, ces DVD? C'est Sony qui les envoie, c'est la Columbia.
Voilà, tout à fait,
c'est pas quelque chose qui est... C'est officiel, en
tout
fait.
Tout à fait. Ce sont, alors, soit pour faire les bobines ou la diffusion, puisque tout est numérisé dans le cinéma maintenant, soit pour la promotion de l'œuvre. Mais nous avons constaté depuis presque un an et demi, deux ans, que trois copies sur cinq viennent de l'étranger. C'est-à-dire qu'ils sont assez rares les fuites qui viennent directement via le territoire national.
D'accord.
Ce qui explique...
Sauf les films français.
Même pour les films français, puisque lorsque vous avez des cas comme des titres français qui sont publiés en DVD en Espagne, je vous donne cet exemple, il y a un laps de 3 mois entre la sortie salle et la sortie DVD en Espagne, alors que c'est 6 mois en France. Mmh. Et bien, lorsque le DVD est disponible en version espagnole, il y a toujours des groupes en France qui récupèrent les voix des fichiers contrefaits ou bien ils retournent en salle et vont les mettre sur le DVD pour pouvoir diffuser ces DVD sur DVD screener sur les réseaux.
Voilà. Alors, on va reprendre cet exemple de Spider-Man 3. Donc là, ça y est, il est sur la toile. Donc quelqu'un a pris ce DVD qui est officiel, l'a copié sur son ordinateur, et après le met sur le web.
Alors,
qui fait ça? Est-ce qu'on sait qui c'est? Est-ce que c'est la mafia russe? Est-ce que c'est des hackers? C'est quoi? C'est qui?
Non, je pense que ce n'est pas dans l'objectif de la mafia russe ou italienne.
Parce qu'il n'y a pas de but commercial là-dedans.
Tout à fait. Effectivement, c'est pas dans leur intérêt que les gens aillent acheter. Je reviens sur la mafia, François.
Ouais.
C'est pas dans leur intérêt que les gens téléchargent gratuitement ces fichiers à travers Internet, puisqu'ils sont censés vouloir les vendre dans la rue. Mais bon, là, il y a un vrai phénomène. Les gens ont deux possibilités. Hein. On est tous consommateurs. Vous avez le choix entre avoir un produit gratuit ou le même et le payer. Bon, il y a un réflexe qui est inhérent à notre société.
Ben donc, oui, ben, c'est pas ça, c'est
consommation.
Voilà, oui, bien sûr.
Donc, pour situer un petit peu la chose, la piraterie audiovisuelle, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a toujours existé et existera toujours. Hein. C'est un constat qui est triste, mais qui est réel. Il y a encore 10 ans, la piraterie de cinéma, on va dire, c'était quelques centaines de personnes en France. Et c'est ce que nous appelons les scènes underground. Ces scènes, ça réunit une centaine, 200 personnes en France maximum. Bon, les gens se partagent les fichiers, mais bon, ça reste fermé entre eux.
C'est-à-dire qu'ils se créent leur propre vidéoclub, voilà. Mais ça ne transpire pas, en fait. Ça ne sort pas...
Ça reste interne.
Voilà.
Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce que nous appelons des releaseurs. C'est-à-dire des groupes bien connus qui ont accès, comme nous, à ces réseaux underground, assez fermés, qui prennent ces fichiers et vont les déployer sur les réseaux ouverts, sont Imul, BitTorrent, etc.
Qui sont énormément populaires. Et donc, c'est eux, en fait, les vecteurs de cette hémorragie.
Voilà,
hein, c'est
tout
ça.
Tout à fait. C'est pour cela que nous essayons, depuis plusieurs années, de cibler les premiers diffuseurs.
C'est-à-dire qu'un Spider-Man, on va prendre, par exemple, l'échéance. Hein. Mm-hmm. Un Spider-Man 3 est mis en ligne, par exemple,
cette nuit.
Voilà,
cette nuit, il est sur les réseaux underground. Tout nous laisse à penser que demain, dimanche, il sera sur les réseaux BitTorrent.
Donc, il faut quoi? Il faut 48 heures à partir du moment où le DVD est mis à disposition sur Internet pour qu'il soit inondé sur tous les logiciels de peer-to-peer.
On a des cas où, effectivement, ça peut être au bout de 2 ou 3 heures, voire 6 heures, et d'autres cas où ça a été 2 mois et demi.
Tiens.
C'est en fonction.
Mais tout dépend de la popularité du film.
Effectivement, tout à fait. Alors, quand vous avez un film, je ne vais pas citer parce que ce n'est pas évident, des titres que nous protégeons pour la plupart, mais effectivement, lorsqu'ils sont sortis en version francophone au Canada, ils sont en DVD, donc disponibles sur les réseaux, alors qu'ils ne sont pas encore en salle en France. Donc il y a effectivement une problématique, on va dire, de cohérence au niveau de la sortie, on peut dire, mondiale,
qui
porte préjudice aux ayants droit.
C'est le fameux calendrier des sorties.
Effectivement.
Et
ça, plus le délai qu'il y a et qui pose de plus en plus de problèmes entre la sortie salle et la sortie DVD, il est évident qu'il faudra réfléchir à d'autres alternatives, puisque c'est très contraignant actuellement pour les ayants droit.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que toute cette organisation est quand même assez fascinante, parce qu'on prend le cas d'un Spider-Man 3, par exemple. Il n'est pas en version française quand il arrive en Russie, ici.
Le format était R5, c'était multilangue, comme un DVD que vous avez sur le commerce.
Ah d'accord, donc c'est encore pire. C'est-à-dire que là, en fait, les pirates n'ont rien à faire pour l'adapter à la langue, on va dire, locale.
Voilà.
Mais on prend le cas d'un film, par exemple, d'un DVD qui est, je ne sais pas moi, en russe ou en anglais.
Eh bien, dans cette situation... Les gens vont poster sur des réseaux, là encore très fermés, ces titres pour que les pirates, enfin les hackers, puissent récupérer ces copies et pouvoir remasteriser les voix en français ou en espagnol. C'est ce que nous constatons depuis maintenant.
Alors, il y a des gens qui vont dans les salles de cinéma avec un micro qui enregistre la version, la VF
tout
du
à
film
fait.
Et qui, après, chez eux, avec leur ordinateur, la colle sur la version anglaise ou je ne sais quoi.
Voilà, et puis sont les premiers à les mettre sur les réseaux ouverts. Effectivement.
Alors, qu'est-ce qui les motive ? C'est quoi ? C'est la compétitivité, la compétitivité, en fait, la compétition, c'est ça ?
Tout à fait. C'est au premier qui aura mis le Spider-Man 3 en parfaite qualité.
Et on le saura. Il y a une reconnaissance pour ces gens-là,
Oui, puisque en fait, ce sont toujours les mêmes groupes de releaseurs à qui nous avons affaire. Et dans tous les cas, ce sont à celui qui ramène le premier DVD de bonne qualité.
Mais ces gens-là, vous les connaissez ?
Non,
plus
pas personnellement.
Enfin, non, vous connaissez, non. Mais
on sait à qui on a affaire, oui, effectivement.
Vous savez où ils sont à peu près ? Vous arrivez à les localiser, par exemple ?
Les localiser. C'était chose facile encore il y a quelques temps. C'est vrai qu'en France, comme les releaseurs savent qu'il n'y a pas encore d'autorisation CNIL pour les cibler, tout du moins les premiers releaseurs, on a de plus en plus de contrefacteurs, de hackers qui déploient via le territoire français. Nous menons des actions depuis 2 ans qui portent assez et même largement ses fruits en Espagne. Et nous avons constaté que les releaseurs espagnols, les hackers, déployaient plus via le territoire espagnol, mais via la France, puisqu'ils savaient que pour pouvoir mener des actions sur le territoire français, les organismes professionnels qui en sont en charge, n'ayant à ce jour aucune autorisation pour cibler les premiers diffuseurs, peuvent agir en toute impunité.
Mais vous devez vous sentir un peu impuissant. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça ?
C'est terrible. Nous demandons depuis près de 3 ans à pouvoir travailler en bonne intelligence avec certains représentants d'organismes professionnels, que je ne citerai pas, et nous sommes confrontés à un mur. On ne comprend pas.
L'organisme professionnel, par exemple, les représentants des FAI ?
Non, les FAI, c'est un autre bout de la chaîne, mais bon, j'ose pas, parce qu'après, ça peut se retourner contre nous, voire nos clients. Mais effectivement, pour pouvoir travailler comme on l'a fait pour le CEL, il faut que nous puissions faire une autorisation. Et actuellement, depuis la loi modifiée d'août 2004, il faut que ça soit via un organisme professionnel. Donc c'est vrai que pour rejoindre le cinéma, je vais être honnête, il nous faut pouvoir travailler avec l'ALPA, et c'est quasiment impossible. C'est même impossible. Nous n'arrivons pas à travailler avec l'ALPA.
Donc, l'ALPA, pour ceux qui ne connaissent pas...
L'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, entendons-nous bien, est un non-sens, puisque la piraterie est uniquement maritime. Mais en tout état de cause, c'est l'ensemble des membres de cette ALPA qui, pour la plupart, font appel à nos services, puisque force est de constater que depuis 2 ou 3 ans, on nous promet des lois. Là encore, on va reporter le problème de la piraterie vers le législateur, puisqu'on a demandé à notre nouvelle ministre de pouvoir mettre en place des ripostes ou des solutions. Je peux vous dire que ça, avec notre expérience, que ça ne va pas mener à grand chose, si ce n'est de complexifier encore plus la chose. Et dans 2 ou 3 ans, la faute ne sera plus de l'organisme professionnel, mais du législateur. C'est-à-dire qu'on ira voir nos députés pour leur dire, voilà, si on n'a pas enrayé le phénomène de la piraterie, c'est un petit peu de votre faute.
Cela dit, vous avez des armes pour vous battre, parce que vous êtes malin. Alors, quels sont les ruses que vous employez pour justement... énerver les internautes qui téléchargent.
Alors, nous avons eu l'occasion lors du 60e anniversaire du Festival de Cannes, où nous avons eu un stand présent donc sur place, excusez-moi, de faire une démonstration des nouvelles technologies que nous avons mis en œuvre. Jusqu'à présent, la plupart des sociétés concurrentes que nous avons sont américaines, proposent des solutions avant la piraterie, c'est-à-dire du déploiement de fichiers leur comme nous le faisons, etc. Mais une fois que le fichier contrefait est disponible sur le réseau, peu d'actions sont menées. Donc nous, depuis plusieurs années, nous avons déposé des brevets, dont un qui consiste à faire ce que nous appelons de la corruption de fichiers. C'est-à-dire que dès qu'un fichier contrefait est disponible sur les réseaux...
Prenons le cas de Spider-Man 3, prends celui-là.
Voilà, donc c'est
donc Spider-Man 3, il est disponible partout.
Tout à fait, il est déjà disponible en cam record, en screener, etc. Donc nous allons lancer...
Cam record, ça veut dire que c'est un gars qui est dans la salle de cinéma et qui filme avec son caméscope. Alors la qualité, en général, c'est pas terrible. Souvent, on voit des pop-corn voler ou des gens passer devant l'écran. Enfin bon, il faut vraiment vouloir. Il faut vraiment avoir envie. J'ai pas testé, mais j'ai entendu dire.
Effectivement.
Le but, c'est quoi, en fait ?
Le but est de pouvoir... Malheureusement, on ne peut plus enlever ce fichier une fois qu'il est disponible. Donc, il nous reste quelques armes qui sont ce que nous appelons, nous, l'encombrement des files d'attente. C'est-à-dire que, un peu comme 10 caissières dans votre grande surface, nous allons mettre en permanence 20 caddies devant chaque caisse, de telle sorte que les personnes, les internautes qui essaient de récupérer le fichier mettent beaucoup plus de temps. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ce que nous avons présenté au Festival de Cannes, c'est la corruption de fichiers. C'est-à-dire que nous arrivons à renvoyer des paquets corrompus, que ce soit BitTorrent, Imul, Shareaza ou autres logiciels assez connus. Nous faisons comme si nous avions l'intégralité du fichier, nous renvoyons à l'ensemble des internautes et leur logiciel, en l'occurrence, des parties corrompues.
Ça veut dire qu'en fait, vous allez détruire... Est-ce que vous arrivez à détruire le fichier original ou pas ?
Non, c'est...
Mais en fait, ce qui va se passer pour l'internaute, c'est qu'il va croire qu'il va télécharger le film, et en fait, il va télécharger une bouillie de pixels.
Alors, il y a cet aspect, mais surtout, il va mettre beaucoup plus de temps pour récupérer le fichier, parce qu'on n'est malheureusement pas les seuls à obtenir le fichier, et les réseaux peer-to-peer fonctionnent de telle sorte que vous récupérez un bout d'un fichier.
Mais les internautes peuvent noter aussi aussi la qualité du fichier, non ? Dire oui, celui-là il est bien, attention, celui-là ça il marche pas.
Effectivement, il y a des commentaires et nous aussi nous mettons des commentaires sur les fichiers parfois pour dire qu'il y a un virus ou que c'est de mauvaise qualité. Ce sont malheureusement les quelques armes que nous
avons. Et ça marche, hein, ou pas ? Franchement,
ça marche relativement bien.
Ouais.
Oui, nous arrivons à, on va dire, à des résultats probants. Je peux pas pour l'instant vous donner d'informations puisque nous mettons.
C'est-à-dire qu'en fait vous découragez un peu l'internaute qui va passer peut-être un jour ou deux pour télécharger un film.
Tout à fait.
Et il va se retrouver avec un truc qui va pas marcher, quoi.
Voilà où il aurait mis davantage de temps.
C'est, pour la c'est musique, c'est différent, je crois. Hein. Vous mettez en boucle des extraits.
Pour la musique, comme pour le cinéma. Hein. Donc nous mettons les 30 premières secondes en boucle intelligemment. Hein. Nous faisons ce que nous appelons des leurres intelligentes, contrairement à ce que peuvent proposer certains concurrents outre-Atlantique, qui font des fichiers vides de contenu. Donc un fichier cinéma de 700 mégaoctets, vous le téléchargez en 15 minutes, alors qu'un fichier de 700 mégaoctets, vous le téléchargez rarement en 10 minutes.
Voilà, c'est quoi. Ça. Donc, oui,
donc
c'est
ce que nous
pas très
faisons,
malin.
Nous faisons, nous prenons la bande-annonce donc pour le film que nous mettons en boucle et nous en déployons une multitude sur les réseaux, multiformats. Il est quand même intéressant de noter que nous avons de plus en plus d'ayants droit en France, au Canada, même au Mexique, hein, ouais, qui nous donnent les premières minutes. C'est-à-dire que nous mettons les 10 premières minutes, puis la bande-annonce en boucle, nous les déployons sur les réseaux et on obtient de très très bons résultats. C'est-à-dire que les gens maintenant prévisualisent de plus en plus les fichiers à cause de ces fakes.
C'est là que vous parliez tout à l'heure de marketing, c'est-à-dire qu'on arrive finalement à donner envie aux spectateurs d'en savoir plus.
Alors il y a plusieurs constats.
C'est de la promo finalement là.
Alors c'est une forme de promo.
C'est intelligent ça.
On est français avec des brevets français, c'est important de le répéter. Mais en tout état de cause, oui, on va utiliser ces réseaux comme moyen de promotion des œuvres. Et il est important quand même de noter qu'il y a un vrai parallèle entre les courbes des ventes et les courbes de téléchargement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les ayants droit vont faire de la publicité, on voit les pics de téléchargement bondir d'un seul coup. Et dès que le cycle de vie, c'est-à-dire les ventes baissent, automatiquement on voit les téléchargements baisser. Donc on sort un mois avant la sortie d'une œuvre, donc entre Mission Impossible 2 et Mission Impossible 3, avec nos fichiers-là, on peut dire voilà, l'Opus 3 va mieux marcher que le 2. Ce qui permet à nos clients, non pas d'avoir des informations super véraces, mais d'avoir des indicateurs sur la demande concernant tel ou tel titre.
Voilà, vous faites un métier étonnant. Hein,
c'est un bon métier.
Ouais, Copyright Agency. Alors bon, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas intéressant d'aller vous voir, puisque là, ce sont les éditeurs et les majors qui travaillent avec vous, mais c'est intéressant de savoir que vous existez et comment vous combattez le piratage. Puisque, rappelons-le, c'est quand même l'essentiel. Si un jour tout le monde pirate, il n'y aura plus de création audiovisuelle, hein, ça c'est clair. Hein. Alors après, il faut dire aussi que les tarifs ne sont pas forcément les bons, que les modes de consommation et de vente ne sont pas forcément les bons aussi.
Même si sur ces arguments, bien souvent précisés, il faut quand même indiquer qu'il y a eu de grands efforts de
fait
sur la vente de DVD ou le prix des CD.
Mais il y a entre autres les DRM qui posent d'énormes problèmes de compatibilité, de lecture, etc.
Tout à fait.
Enfin bon, ça c'est un autre débat. Stéphane Michenot, merci beaucoup.
Merci François.
Pour nous avoir éclairé sur ce sujet passionnant. Et vous restez avec nous. Dans un instant, ce sera Stéphane Schreiber, qui n'est pas du tout un pirate, lui, hein. Ça, je peux vous le garantir, l'éditeur en chef de Micro Hebdo. Hein. Et il sera à mes côtés pour survoler toute l'actualité de la semaine dans le domaine de la micro-informatique et des nouvelles techno. A tout de suite.
RMC, de quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle sur RMC, vous êtes toujours là, tant mieux. Et sachez que dans un petit quart d'heure, vous retrouverez les essais qualificatifs du Grand Prix de Grande-Bretagne avec à la fois Alexandre Delperrier, Julien Febraud, Patrick Tambay. Ce sera donc juste avant les infos de 14h environ. Mais dans l'immédiat, j'accueille Stéphane Schreiber. Bonjour Monsieur Schreiber, Stéphane.
Bonjour Monsieur Sorel et bonjour à tous.
Stéphane qui est rédacteur en chef, vous le savez, de Micro Hebdo. Micro Hebdo qui cette semaine fait la part belle au meilleur site internet pratique et utile. C'est votre dossier important de cette semaine. Histoire de se retrouver un petit peu, de se dépatouiller dans une toile qui est de plus en plus riche. Hein.
Voilà, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour trouver une information, on passe souvent par un moteur de recherche. Mais là, on s'est dit, tiens, on va mâcher le travail à nos lecteurs et on va leur présenter les sites les plus utiles, les plus pratiques à connaître et à fréquenter. Alors, on les a classés par thème, hein, tout ce qui concerne la vie quotidienne, le bricolage, la culture, l'information, etc. L'informatique, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Donc voilà, c'est notre sélection de nos sites préférés.
Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de sites qui ne sont pas très, très connus. Hein, donc, il y a eu un travail important. Pourtant, à la rédaction.
Un vrai travail de tri,
effectivement. Dans les sites habituels.
Il y a quand même quelques incontournables. Hein,
oui, mais il y a
évidemment,
aussi.
Mais il y a aussi, on espère en tout cas pouvoir faire découvrir aux gens des sites qu'ils ne connaissent peut-être pas, mais qui valent le coup d'aller voir.
Vous savez comment on dit biberon, en anglais ?
Feeding bottle. Feeding bottle, voilà, absolument.
Exactement. Si vous voulez en savoir plus, Le micro-hebdo de cette semaine, c'est le 481. Mais il n'y a pas que ça dans micro-hebdo. Ouh là là,
Oh que non.
Il y a aussi toute une sélection de jeux vidéo d'aventure. On va y revenir dans un instant. Et puis, il y a aussi des produits sympas que vous avez testés cette semaine avec, entre autres, une paire de lunettes. Alors, on se dit, tiens, c'est génial. Paire de lunettes en cette période de l'année. Sympa pour aller à la plage et pour se protéger les yeux. Non.
Là, non.
Mais là, cette paire de lunettes ne sert pas du tout à ça.
Non, elle ne va pas du tout servir à se protéger les yeux. J'ai même peur qu'elle ne les abîme à la longue. En fait, c'est une paire de lunettes totalement high-tech. Chaque verre est en fait un mini-écran LCD. Ça va vous permettre simplement de regarder des films tout seul dans votre coin en égoïste, sans déranger personne. Voilà, vous avez chaque verre donc, est un mini-écran. Vous avez des enceintes dans les branches des lunettes et vous profitez de vos vidéos de cette façon-là. Voilà, c'est bien. La qualité d'image est très correcte, mais franchement, moi j'ai un petit doute. D'abord, c'est pas super confortable parce que les lunettes sont quand même un peu lourdes, il faut bien le dire. Et puis à la longue, je sais pas, j'ai un doute. Il faudrait vérifier quand même avec un ophtalmo, mais je me demande si ça ne peut pas faire du mal à la vue.
Voilà.
Allez savoir.
Ouais. Mais alors, comment ça fonctionne? Il y a deux petits écrans LCD, si vous voulez, dans le verre, hein, mais tout petit. Mais étant donné que vous mettez les lunettes très très proches de l'œil, bah, vous avez l'impression d'avoir un grand écran devant les yeux.
Voilà, c'est ça. Hein. Vous avez l'impression d'avoir un grand écran. Oui, c'est de ce côté-là, la sensation est parfaitement réussie. Ça,
alors, peut brancher quoi alors, hein? Un lecteur DVD? On peut brancher n'importe quelle source vidéo, c'est ça?
Presque n'importe quelle source vidéo. Il ne manque que quelques petits accessoires, genre un iPod vidéo. C'est le truc que personne n'a aujourd'hui. On peut pas le brancher, par exemple, sur ces lunettes-là.
C'est un peu ballot. Ah oui. C'est vrai que la connectique, ça, c'est des points faibles, hein, un peu légères. Et puis le prix, parce que ça coûte quand même, ce petit gadget, 260€, c'est ça?
260€, voilà, c'est le prix du gadget high-tech aujourd'hui, si vous voulez paraître branché, notamment à la plage, par exemple, parce que c'est totalement, évidemment, mobile. Hein, il n'est pas recommandé de conduire avec, bien sûr, mais vous pouvez vous déplacer avec si vous n'avez pas peur de vous prendre des obstacles. Et par exemple, à la plage, hop, vous allongez, vous regardez votre film tranquillement. Voilà, si vous aimez frimer, 260€, ça peut le faire.
Vous allez frimer. Cela dit, faites attention aux yeux, à mon avis, il ne faut pas abuser de ce genre de gadget. Hein. Et alors, c'est Visio Mobile.
C'est Visio Mobile. Voilà, les lunettes s'appellent les Visio Mobile. C'est Tech Mobility qui fait ça. Et vous aurez plus d'infos sur leur site internet www.techtools.fr.
Sony avait sorti une paire de lunettes comme ça il y a très longtemps, je crois, qui n'avait pas du tout marché. Et je crois qu'ils avaient arrêté le concept. Parce qu'en fait, je crois qu'effectivement, il y a des soucis. Au bout d'un certain temps, au niveau de la vue.
Des migraines ophtalmiques, peut-être, allez savoir.
Voilà, en gros, c'est ça. Alors, j'allais dire gadget, non, parce que ce n'est pas un gadget. L'imprimante multifonction que vient de sortir Kodak est tout sauf un gadget. Parce qu'il faut savoir que Kodak, alors évidemment, est un constructeur prestigieux dans le domaine de la photographie depuis très, très, très longtemps, hein, a bien réussi le tournant du numérique. Et n'a jamais sorti d'imprimante, hein, Kodak, sauf les petites imprimantes 10-15.
Les petites imprimantes photo, ce qu'on appelle la sublimation thermique.
Voilà, et là, ils s'attaquent à un nouveau marché, celui de l'impression, on va dire, traditionnelle.
De l'impression à jet d'encre. Ils y sont venus il n'y a pas très longtemps, effectivement, avec un premier modèle que nous avions apprécié quand nous l'avons testé à Micro-Hebdo. Et là, ils sortent leur deuxième modèle, qui cette fois-ci est une imprimante multifonction, c'est-à-dire qui fait à la fois donc, imprimante, scanner et puis donc du coup photocopieuse. Et elle fait tout ça à la fois. Ma foi, encore une fois, c'est un essai transformé de la part de Kodak. Leur produit nous a tout à fait convaincus, à la fois donc par la qualité des impressions, à la fois par les qualités de la numérisation des documents et par la simplicité. Et tout ça pour un prix très, très raisonnable, il faut quand même le signaler, pour 200€. C'est un prix tout à fait correct, c'est exactement dans la moyenne du marché.
Voilà, et puis la particularité aussi de cette imprimante, c'est qu'en fait, Kodak emploie maintenant un nouveau système à jet d'encre avec des cartouches qui consomment en fait deux fois moins que les cartouches traditionnelles.
Voilà, et qui ne sont pas vendues plus cher pour autant. Ça, c'est également important de le préciser. Ce qui fait que, par exemple, vous allez imprimer une photographie, elle va vous revenir en gros à 14 centimes d'euros par photo imprimée. Alors que sur d'autres imprimantes, on arrive facilement à des coûts beaucoup plus élevés que ça. Oui, voilà. Souvent le double.
Alors, elle coûte 199€. Et alors, Kodak justifie ce prix relativement élevé parce que même si c'est une imprimante multifonction, c'est quand même relativement cher. Simplement parce que, justement, comme la cartouche coûte moins cher, ils peuvent se permettre de vendre l'imprimante un petit peu plus cher.
Légèrement plus cher. On est vraiment dans la moyenne du marché.
On est dans la moyenne du marché.
On est dans le haut de la moyenne. Voilà, on est dans le haut de la moyenne du marché, on va dire.
Parce qu'elle n'a pas de Wi-Fi, hein, par exemple, pas de prise réseau. Mais bon, après, il y a tous les lecteurs de cartes, etc.
Effectivement. Ce qui lui manque également, c'est la fameuse liaison PictBridge qui permet d'imprimer directement depuis l'appareil photo numérique sans passer par un PC. Mais a priori, comme c'est quand même une imprimante qui est destinée à être branchée sur un PC, a priori, on peut se dire que ce n'est pas un manque qui est tout à fait qui est rédhibitoire.
Voilà, c'est l'EasyShare 5300. Donc, Kodak. EasyShare 5300 et on le disait 199 euros.
Absolument.
Voilà. On a un autre petit gadget à vous présenter, mais ce sera en toute fin de ce rendez-vous micro-hebdo. Maintenant, place aux jeux vidéo, avec un dossier spécial jeux vidéo, cette semaine dans micro-hebdo. Vous avez testé quelques-uns des logiciels d'aventure qu'il faut avoir en ce moment. Hein,
les jeux d'aventure, effectivement, on a testé trois jeux d'aventure totalement nouveaux.
C'est bien ça pour les filles, pour tous
sortir.
Ceux qui ou partent pas en vacances tout de suite, ou ont la chance d'avoir un PC portable qui peuvent... emporter partout, c'est sympa. Hein.
Ça, c'est sympa. Donc, on rappelle le principe des jeux d'aventure rapidement.
Allons-y.
Voilà, donc une histoire en général très bien ficelée, un joli scénario, souvent à base d'une enquête plus ou moins policière, ou en tout cas à tendance policière. Et le principe, c'est absolument pas un jeu d'action, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit de cliquer sur l'écran pour prendre un objet, le ramasser et en fait résoudre des énigmes de cette façon-là. Alors, des énigmes qui peuvent être souvent de logique, parfois mathématiques, mais c'est très rare. L'idée, c'est simplement de réfléchir un peu, de jouer en réfléchissant, en s'amusant.
Voilà. Donc là, l'action n'est pas de mise dans ces jeux-là, hein, Stéphane.
Non, absolument.
On est d'accord,
c'est rarement de la 3D. Il y en a un ou deux qui sont en 3D
Mais c'est plus
animé,
du point and click.
Mais c'est ce qu'on appelle le point and click, effectivement. C'est
alors,
pointer
on explique
et
ce que
cliquer.
C'est
pointer et cliquer. Voilà, il suffit d'aller cliquer, de découvrir à l'écran les objets sur lesquels on peut cliquer, donc avec lesquels on peut interagir et qui vont permettre. Donc, ce sont des indices qu'on va découvrir et qui vont permettre d'avancer dans l'aventure.
Avec toujours des casse-têtes, des choses comme ça. Le jeu emblématique, c'est un peu Myst, hein, pour tous ceux qui ont fait ça il y a quelques années. C'est vrai que Myst, c'était véritablement ce genre de jeu. Hein.
Oui, c'était le jeu qui a fait vraiment connaître ce
genre-là. Ça arrachait les cheveux, Myst, d'ailleurs.
Hein, avec des énigmes
bien tordues,
vraiment tordues, oui,
ouais,
absolument.
Ouais. Sortez de là, c'est un peu comme les lunettes. Hein, vous les mettez et puis après, vous avez mal à la tête. Voilà. Et donc, il y a un marché pour ces jeux.
Il y a un véritable marché.
Ils ne sont pas forcément les plus à la mode maintenant, il faut quand même l'avouer. Aujourd'hui, c'est plutôt une débauche de technologie qu'on a dans les jeux. Hein.
Et là, ce n'est pas trop le cas, effectivement. Technologiquement, ce n'est pas ça. Là, ce sont les artistes réellement qui s'en donnent à cœur joie en concevant ces jeux, notamment les graphistes, puisque comme ce ne sont pas des images animées, ils peuvent prendre le temps de faire des décors, mais vraiment somptueux dans tous les cas. Et puis également les scénaristes qui, eux, également s'en donnent à cœur joie, qui s'amusent avec nos nerfs de joueurs à concevoir des énigmes toujours plus tordues les unes que les autres. C'est mon petit côté chauvin qui ressort, mais je voudrais faire un petit cocorico parce que les meilleurs jeux d'aventure de ce style-là sont quand même réalisés par des studios français. Je tiens à le dire, plusieurs studios français qui sont spécialistes de ça et qui le font très bien.
Tant mieux.
Les Anglais, les Américains sont très forts dans les jeux d'action. Nous, c'est les jeux d'aventure, et bien tant mieux.
Oui, parce que en plus pour créer ces jeux d'aventure, c'est pas facile. Il faut vraiment créer une trame, un roman, une histoire passionnante avec toujours une intrigue bien ficelée. Donc c'est vrai que c'est un peu comme un film. Alors, vous en avez testé 4. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
On en a testé 4. Il y en a 3 récents qui viennent de sortir
Seconde
là tout de suite.
Seconde Guerre mondiale,
maintenant.
Un peu de fantastique, de l'historique. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on commence avec Cléopâtre. Cléopâtre, la fameuse Cléopâtre que tout le monde connaît, la copine d'Astérix. Hein,
complètement.
Hein, qui fait l'objet d'un jeu d'aventure édité par Nobilis. On incarne Ptolémée, qui est le frère de Cléopâtre, et on recherche l'astrologue de la reine qui a disparu.
Oula.
Alors, évidemment, là, derrière tout ça, il y a un complot, il y a plein
complot,
de choses, je
sûr.
Ne vous en dis pas plus. Voilà, c'est un jeu qui est réalisé magnifiquement, somptueusement, avec un graphisme magnifique, et que je recommande très chaudement.
Voilà, et en fil rouge, en fait, il y a les thèmes astrologiques, puisque la particularité de ce jeu, c'est que lorsque vous... vous commencez à jouer, on vous demande votre signe astrologique et vous le donnez. Et suivant votre signe, eh bien, il va avoir une histoire particulière. Donc, ce qui fait que finalement, on peut avoir 12 histoires pratiquement différentes.
Voilà, on peut recommencer 12 fois le jeu, effectivement. La fin est la même, mais malgré tout, la façon d'arriver à la fin diffère.
Il y a quelques petits changements.
Voilà, on regrette juste un truc. Le jeu s'appelle Cléopâtre, mais elle n'est là qu'en toile de fond. Cléopâtre, on ne la croise quasiment pas dans le jeu, si ce n'est par l'intermédiaire de séquences vidéo animées qui sont là pour comme intermédiaire entre plusieurs scènes.
D'accord.
C'est dommage. C'est un peu dommage.
On peut pas faire point and click sur Cléopâtre.
Là non.
C'est un peu dommage.
Non.
Et c'est Nobilis qui édite ce jeu. Nobilis donc un éditeur français. Hein. Et c'est cléopâtre-le-jeu.com si vous voulez en savoir plus. En plus, ce qu'il y a de bien avec ces jeux, c'est qu'en général, pas besoin d'avoir un PC dernière génération, dernier cri. Hein. On peut se permettre d'avoir une machine relativement vieille.
Relativement modeste, absolument.
Voilà. Et ça tourne bien.
Et ça tourne très bien. Ça, et notamment sur les PC portables, hein, vous le disiez tout à l'heure, mais il faut le rappeler, qui sont, on le sait, pas doués pour le jeu naturellement, mais ces jeux-là s'y conviennent très bien à un PC portable.
Numéro 2, c'est la malédiction de Judas.
La malédiction de Judas, évidemment. Alors là, on est en plein dans le Da Vinci Code, hein, disons-le. C'est, je ne vais pas dire que c'est un plagiat, mais on est très, très, très fort inspiré du scénario du livre et du film par ailleurs. Encore pareil, donc avec une enquête qui mêle à la fois un petit peu du mysticisme, du policier, et qui est passionnante. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est une enquête vraiment passionnante. On peut incarner plusieurs personnages différents. Le scénario, les décors, tout ça, c'est très bien fait, c'est super réussi. Je trouve juste que le jeu est un peu trop facile par moment. Il y a certaines énigmes qu'on aurait aimé un peu plus compliquées.
Je vais me le prendre celui-là, j'aime bien les jeux faciles.
Et oui, c'est vrai que des gens aiment ça, après tout, pourquoi pas. Mais là, franchement, par moment, c'est un peu trop. Et puis, au niveau de la réalisation, les scénaristes ont fait une petite erreur, quelques longueurs dans les dialogues. Des fois, il faut attendre 2-3 minutes, voir les personnages discuter à l'écran. Ouais. Voilà, on ne peut même pas les interrompre, c'est un peu dommage.
On attend de se faire un petit café, quoi.
Quasiment.
Alors donc le premier c'est Cléopâtre 2, la malédiction de Judas, et les troisième et quatrième sont relativement bien notés. On est dans deux univers différents aussi. Hein.
Dans deux univers totalement différents, un qui s'appelle Aura 2, les anneaux sacrés. Alors là on est carrément dans un monde imaginaire, un monde parallèle, qui est donc Aura 2, on l'aura compris, c'est la suite de Aura 1, forcément.
C'est pas bête.
Le problème c'est que si on n'a pas joué à Aura 1, on est complètement largué dans Aura 2, au niveau de l'histoire, de toutes les complications du scénario, de tous les personnages, les intervenants, etc.
Donc c'est vraiment fait pour ceux qui sont accros et qui ont joué au premier. Alors.
Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Et puis l'autre jeu que nous avons essayé, c'est Berlin 1943, où là on tombe carrément dans l'espionnage, pas industriel, mais l'espionnage militaire. Alors un jeu un peu moins bien réussi que les autres, avec notamment une difficulté assez relative, mais qui peut quand même intéresser ceux qui sont passionnés par la période de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà. Alors Aura 2, c'est Atari qui l'édite. Et concernant Berlin 1943, c'est micro-application. Hein, voilà.
C'est ça.
Donc il y en a d'autres, hein, des jeux d'aventure, hein, mais ceux-ci sont, on va dire, les plus récents.
Ce sont,
hein.
Ce sont les quatre plus récents.
Voilà, les plus Absolument. Récents les mieux testés, les mieux notés chez vous. Tiens, un autre petit produit sympathique que vous avez testé, c'est Sony qui, en général, bon, alors innove, hein, Sony, pas forcément dans le domaine de l'informatique, hein, ils sont plutôt issus plutôt les tendances. Là, en revanche, ils sortent un truc, c'est assez étonnant.
C'est assez rigolo. Alors, je ne sais pas où ils ont eu l'idée, il faudrait que je leur demande un jour. Peut-être qu'un ingénieur, un lendemain de fête, s'est dit tiens, je vais faire ça, je ne sais pas.
Un lendemain de fête, il était encore un peu, non ?
Oui, sans doute un peu, pas très frais le matin.
Une souris qui fait téléphone. Voilà. Les autres ont dit oui, écoute, c'est bien sympa, mais va cuver et puis tu reviens demain. Bah, sauf qu'ils l'ont fait.
Eh bien, ils l'ont fait, voilà. Donc c'est quoi ? Ben c'est ça, c'est une souris optique, hein, que vous branchez via une prise USB sur votre ordinateur, tout à fait normalement. Et cette souris est à clapet, vous pouvez l'ouvrir, elle se transforme en combiné téléphonique qui fonctionne avec le logiciel Skype.
C'est incroyable ça.
C'est quand même incroyable.
Pas mal. Donc c'est parfait pour ceux qui veulent avoir un produit tout en un avec un portable par exemple, parce que ça évite d'avoir un micro casque, etc. Donc
voilà,
là, on a une souris, dans la souris on a aussi un produit pour communiquer.
C'est exactement ça, sachant qu'on ne peut pas faire les deux, on ne peut pas par exemple à la fois communiquer et du coup aller pointer, cliquer sur une page sur un site internet, etc. Donc par exemple le coup, tiens vous êtes avec quelqu'un, ah, quitte pas je vais voir internet, ça c'est un peu dommage.
Ah oui. Hein,
voilà.
Bon alors c'est donc la Sony VN-CX1, c'est
voilà,
ça, hein.
CX1, donc ça veut peut-être dire qu'il prévoit d'en faire d'autres après, allez savoir.
85 euros,
bon voilà, c'est un gadget rigolo. C'est pas extraordinaire, au niveau du téléphone par exemple, le haut-parleur est beaucoup trop fort, ça peut à la longue faire mal aux oreilles. Alors après vous êtes abîmé les yeux avec les lunettes, vous prenez la souris et vous abîmez les oreilles aussi.
Ah bah c'est du joli chez Micro
Hebdo. C'est du joli, hein.
C'est du joli, franchement, bravo. Bon ben voilà, c'est en tout cas un gadget plutôt sympathique et qu'on aime bien ici. On aime bien les gadgets en fait, hein, toutes ces nouveautés. Merci Stéphane.
Merci à vous François.
Rappelons que vous êtes rédacteur en chef de Micro Hebdo. Vous pouvez retrouver toutes ces infos et plein d'autres dans le numéro 480 qui est dans les kiosques. On parle entre autres d'Internet Explorer 7 si vous voulez un peu le booster. Et puis un comparatif aussi de téléviseur LCD de 80 cm. Voilà, vous avez tout testé. Merci Stéphane. De quoi je me mêle, c'est terminé. Notez que dans quelques minutes, vous retrouverez ce rendez-vous dédié aux nouvelles techno en téléchargement gratuit, à la fois sur le site web d'RMC, mais aussi sur iTunes. Et dans un instant, c'est les essais du Grand Prix, les essais qualificatifs du Grand Prix de Grande-Bretagne avec Alexandre Delperrier. Vous retrouverez Julien Febraud et Patrick Tambay. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, dès midi. Salut à tous.